permet vraiment l'introduction pour vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans la Sainte Bathilde. Voilà, nous commençons donc un cycle de trois soirées dont l'idée a germé dans le petit déjeuner de pasteur. On se casse une petite croûte le matin, on se donne des nouvelles des communautés, et en se donnant des nouvelles des communautés, forcément, l'actualité, c'est-à-dire la situation de violence, de guerre, le contexte que vous connaissez, et la manière dont ça impacte nos vies communautaires, vous savez que à Saint-Bathilde en particulier, on a une antenne de soutien pour la Palestine, avec laquelle on est très en lien avec la paroisse catholique de Gaza, l'Ukraine, je ne ferai pas un dessin non plus. Enfin, on a la paroisse orthodoxe d'expression russe, mais liée au patriarcat de Constantinople, on est très actif dans l'accueil aussi des réfugiés ukrainiens. Et puis il y a un certain nombre de paroissiens pour qui c'est toujours la guerre chez eux. Des fois on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'en ce moment, ces derniers jours, depuis que ça recommence à castagner très dur, là, on réalise un petit peu mieux comment dans l'est du Congo, on a par exemple le père Jean-Baptiste, dans les zones de guerre, en permanence. Et donc on s'est dit, ça serait peut-être bien sur ces questions-là, c'est vrai que c'est un peu passé de mode, les réflexions sur la guerre, la paix, la non-violence et tout ça, mais ça ferait peut-être du bien de s'aider à prendre du recul, parce que en ce moment on entend beaucoup, je ne vais pas faire l'actualité de la journée, ça serait long, mais la question de l'esprit, où il croit ou pas, ceci, cela, tout ça revient en rafale. Et donc on s'est dit on va faire une soirée animée plus par les cathos, une soirée animée plus par les mélos, une soirée plus animée par les cultes. Donc les deux suivants, chez les mélos c'est le 15 mars, et à l'écluse c'est le 22 mars, c'est vendredi, avec des éléments qui seront plus sur l'histoire des débuts de l'église mélonite et la manière dont la situation de persécution et de résistance non violente marque un certain état d'esprit et une forme d'inspiration pour aujourd'hui, et puis avec un apport à la fois biblique et psychologique sur la manière dont les rapports personnels avec les autres et avec son Dieu, on peut vivre la non-violence. Et aujourd'hui, c'est la soirée, on a fait appel à Christian Vélon, la soirée plus avec les généralités, les questions un peu de nos églises face à ces situations de guerre, est-ce qu'on les entend, est-ce qu'on les entend pas, qu'est-ce qu'elles peuvent dire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. J'ai connu Christian, on est un certain nombre encore connu Christian quelques années, nous avons été quelques années aumôniers étudiants en même temps, mais avant, quand j'étais étudiant, même pas aumônier, j'entendais que Christian Vélon était actif au MAN, mouvement pour des alternatives non violentes, et puis bon, etc. Puis il va se présenter tout seul, parler un peu du Serras, tout ça, et puis vas-y.
Merci Dominique. Oui, c'est vrai que ça fait déjà pas mal de ça. On se connaît, mais. Oui, alors bon, je ne vais pas trop tarder, mais simplement signaler bon, que je suis jésuite depuis pas mal de temps, puisque je viens d'avoir 80 ans, donc comme chez les jésuites de mon temps, c'était avant le concile, on rentrait à 18 ans, là, vous voyez, pas besoin. Je suis en communauté à Saint-Denis, de l'autre côté du pays, depuis 20 ans, quand je deviens chez l'aide de Saint-Denis. Et mes activités principales sont d'animer, de diriger un centre d'accueil et de soutien aux étudiants étrangers de Saint-Denis et de Saint-Denis. Il y a 70 bénévoles, en général parisiens et retraités, qui viennent à Saint-Denis aider 200-250 étudiants de 50 pays différents. À rédiger en français académique leur thèse, leur maîtrise, choses comme ça. Enfin, c'est assez intéressant. Mais je suis par ailleurs toujours au CERAS, où je suis depuis très longtemps, le Centre de recherche et d'action sociale, qui est à Saint-Denis aussi, et qui fait des formations, et puis qui édite la revue Projet. Donc j'ai apporté deux exemplaires, s'il y en a qui veulent les prendre tout à l'heure. Voilà, et puis bon, je vis en communauté avec neuf, et comme je disais à Dominique tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir beaucoup de jeunes. C'est assez rare dans l'église d'aujourd'hui, mais ce sont des jeunes qui viennent de nombreux autres pays pour faire leurs études dans notre faculté qui s'appelait le Centre Sèvres jusqu'à il y a trois semaines et qui s'appelle maintenant une faculté d'au-delà Paris. Voilà, c'est les derniers jours. Donc, des jeunes qui viennent faire la philo et la théologie en vue du sacerdoce venant, il y en a deux du Kenya, chinois, un de l'Haïti, un autre d'Angleterre. Et puis, dans toutes les communautés jésuites de la région parisienne, il y a des jeunes comme ça qui seront actifs sur votre faire. Bon, voilà, pour compléter ma présentation, disons que je suis intéressé depuis très longtemps par les questions de la guerre, de la paix, avec une spécialité sur la non-violence, maintenant j'expliquerai tout à l'heure qu'il y a quand même des raisons de changer un peu il y a des questions qui se posent, voilà, ces exposés, bien entendu, vous les connaissez. Et puis voilà, bon, rentrons dans le sujet. Donc, le RAD que m'a envoyé Dominique pour amorcer l'échange de ce soir, c'est comment nos églises sont présentes ou pas, en parole ou en acte, dans des situations de violence ou de guerre, d'aujourd'hui. Voilà. Et il me citait aussi à ne pas hésiter à faire aussi un petit rappel des fondements, des fondamentaux théologiques qui étaient le fond du magistère plus récent, alors du côté catholique, mais je sais que vous aurez d'autres ensuite, sur les questions violentes, non-violentes. Alors, pour commencer, je vais interroger l'expression « nos églises », comment nos églises sont présentes ou pas. Parce que, comme vous savez, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on met sous ce mot. Est-ce qu'il s'agit du peuple de Dieu? Ça, c'est la définition, en tout cas, donnée par le Concile Vatican II, dans les années 60, 62 et 65. Voilà. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Ou bien, est-ce que la question porte sur les églises en tant qu'elles apparaissent sur la scène publique? Déclaration dans les médias, prise de position de telle ou telle autorité, notamment quand la guerre, savoir ce que pense le pape François, par exemple, etc. Et puis aussi des églises en tant qu'elles contribuent à former l'opinion des chrétiens sur ces questions, encore que ça, c'est un point, en tout cas du côté catholique, que je trouve particulièrement en baisse, relativement peu. Enfin, disons, de moins en moins de catholiques, y compris pratiquants et fidèles, qui s'intéressent à ce que dit publiquement l'Église sur les grandes questions d'actualité. Bon. Donc, ça fera partie du débat tout à l'heure. Alors, il peut y avoir, même si on prend cette définition donc, des Églises en tant qu'elles apparaissent sur la scène publique, donc, il peut y avoir de fortes différences, je dirais même parfois des oppositions, à l'intérieur même d'une même église. Par exemple, ce que dit et fait le pape François par rapport aux exilés, vous connaissez la réponse, son discours de Marseille, par exemple, et des tas de choses, il y a une forte distance, parfois même opposition entre ce qui dit et fait, et ce qu'en pensent la plupart des pratiquants du dimanche dans les églises catholiques. Alors, peut-être pas ici, hein, je ne sais pas trop. Et pas trop à Saint-Denis non plus, on est plutôt dans la même ligne. Mais je sais qu'il y a d'autres endroits où ça renacle, voire davantage. Si on prend la première définition en disant le peuple de Dieu, il est composé, il est pluriel. Et donc la question, est-ce que nos églises sont présentes dans les situations de violence ou de guerre, ça appelle des réponses multiples, très diverses, selon les continents, selon les pays, selon les types de violence ou de guerre. En fait, moi j'ai l'impression, on pourra en discuter éventuellement tout à l'heure, que les positions des chrétiens, comme vous dites, de base, enfin, ceux qui n'ont pas de responsabilité, les rendent visibles, les chrétiens ordinaires, sont assez similaires à celles de leurs compatriotes éloignés de l'Église. Si on prend les questions de migration, par exemple, je pense que la plupart des catholiques se répartissent un peu entre les positions qui sont données dans les sondages sur la question sans tenir compte de l'appartenance religieuse. Voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas de même d'Ukraine, de la Palestine, du Kibbout, enfin, des choses comme ça. Il n'y a pas une spécificité de son métier. Alors, sauf dans des milieux militants, associatifs, etc., bien sûr, mais si on prend d'une manière générale. Voilà. Alors, à propos de l'Ukraine, par exemple, le consensus des chrétiens français me semble assez large. C'est pas un point de divergence. Beaucoup moins à propos de la Palestine. Là, il y a des divergences probablement très fortes. Quant aux violences qui frappent la population du Kivu, la plupart s'en désintéressent et la plupart ignorent même où se trouve le Kivu. Malheureusement. Et pourtant, en termes de nombre de victimes et de gravité, si on prend sur une large période de temps, disons de 1996 à aujourd'hui, j'ai vu des chiffres de 4 à 5 millions de morts. Bon, sur presque 30 ans. Et puis, je ne joue pas, alors si on s'intéresse sur les chrétiens, qu'on appelle les chrétiens engagés, militants, il me semble qu'ils sont davantage mobilisés sur les questions sociales que internationales. Les questions sociales, la pauvreté, les migrants, les exilés, les différentes formes de solitude, etc. Et puis surtout, et notamment chez les jeunes, environnementales, bien sûr. Plus que sur les guerres. Ça vient aussi du fait qu'on ne sait pas trop que faire. Il y a moins de moyens d'action, de proposition d'action, etc. Mais moi, je constate en tout cas dans la jeunesse, parmi les jeunes militants chrétiens, la sensibilité au changement climatique et à ce qu'il faudrait faire pour changer est beaucoup plus grande que sur la question de l'Ukraine ou de la Palestine, me semble-t-il. Alors, si on prend le mot église, revenons à son sens, disons, en termes cette fois-ci d'institution, il faut s'intéresser à ce que disent les autorités religieuses à ce moment-là sur la paix et la guerre. Alors, je fais là, pas une parenthèse, mais un petit exposé, comme l'a invité Dominique, ne pas hésiter à rappeler des choses peut-être que vous connaissez certains d'entre vous, mais peut-être pas finalement qu'est-ce qu'on dit à partir de l'enseigne, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, enfin, dans le monde catholique, c'est une expression qu'on emploie, sur la paix et la guerre. Donc, juste un petit rappel, et une affirmation centrale d'abord, c'est que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. Voilà, ça c'est, on le voit partout, mais c'est important de rappeler que le shalom biblique n'est pas seulement le silence des armes, c'est l'harmonie. L'harmonie avec Dieu, l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec soi-même, et puis, depuis quelques années, on ajoute bien entendu l'harmonie avec la création. Tel qu'il monte, c'est beaucoup. D'autant plus qu'il a été longtemps exigé, oublié. Alors, en ce qui concerne les rapports entre les êtres humains, une relation harmonieuse avec les autres, ça implique la justice. C'est dire c'est une banalité. Mais non, je crois que c'est là où on arrive justement à des questions qui chèquent, qui fâchent, qui vont amener à faire des clivages. Parce que la justice, qui est une notion absolument centrale dans la Bible, le lien entre justice et paix, comme c'est tous le psaume 85, justice et paix s'embrassent, c'est absolument fondamental à la fois dans tout l'enseignement biblique, l'enseignement des prophètes, etc. Mais c'est aussi corroboré par l'expérience. Les violences ont souvent pour facteur déclenchant le sentiment de justice. Le lien paix-justice, je crois que c'est vraiment à la fois au plan théologique, au plan politique, au plan pratique, c'est absolument central. Et c'est là qu'on va arriver à une notion tout à fait importante si vous réfléchissez sur les guerres, c'est la notion de conflit. Parce que faire œuvre de justice, cela peut amener l'artisan de paix à entrer en conflit. Et en conflit avec qui ? Avec des personnes, parfois, mais surtout avec des institutions, avec des structures, avec des modes de fonctionnement qui sont très profondément inscrits dans nos sociétés. Donc, entrer en conflit, toute l'ambiguïté vient de, souvent de confondant conflit et violence. Conflit, oui, mais cela ne veut pas dire nécessairement violence. Bien sûr, le conflit peut prendre des formes violentes, mais pas nécessairement. Et vous pourriez reprendre dans vos souvenirs tous les conflits sociaux, tous les conflits familiaux, éventuellement familiaux associatifs, etc., qui n'ont pas débouché sur une violence, qui ont débouché sur des situations parfois difficiles à résoudre, pénibles à vivre, peut-être, mais pas sur des formes de violence, si on entend le mot violence, c'est quelque chose qui détruit l'autre, ou qui le blesse. Hein. On se met d'accord sur les mots, c'est vrai. Et autour du mot violence, il y a beaucoup de difficultés parfois à se mettre d'accord. Hein. La violence, moi et un certain nombre d'experts, de gens qui réfléchissent, parle de violence à partir du moment où il y a une destruction, quelque chose qui va détruire l'autre. Manque de respect, c'est pas forcément des coups de fusil ou des bombes, ça peut être des injures, ça peut être du mépris, ça peut être la discrimination, ça peut être des situations d'humiliation. Voilà. Bon. Mais le conflit n'implique pas nécessairement la violence. Ça, c'est la grande intuition de toute la tradition non-violente, celle de Dordi et de bien d'autres. On peut être en conflit, on doit même parfois être en conflit, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que l'autre qui est en train de commettre l'injustice ou se prépare à commettre l'injustice soit paralysé sans être détruit, sans être humilié, sans être nié dans sa personnalité. Et là, nous avons évidemment, en tant que chrétiens, l'exemple suprême de Jésus lui-même. Il a passé sa vie en conflit. Et puis, quand il n'y avait pas assez de conflit, il en rajoutait lui-même, de vous certaines de ses diatribes, tout ça. Mais, à aucun moment, il n'a envers des personnes humaines une attitude de mépris. Je crois que l'Évangile, en ce sens, est une source, une inspiration fondamentale pour arriver à vivre les conflits sans violence. L'exemple typique, c'est il y en a plusieurs autres, l'épisode de la femme adultère, où on lui amène une femme, il s'agit d'une question de vie ou de mort, cette femme risque d'être lapidée si Jésus ne répond pas bien. Et il trouve une phrase merveilleuse, celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Voilà. Avec cette phrase, il a sauvé la vie de cette femme, il a sauvé la sienne en disant non, parce que c'était quelque chose fait pour l'attaquer lui. On était vraiment dans une situation de conflit, une question de vie ou de mort entre lui et ceux qui l'accusaient et qui accusaient cette femme. Il a trouvé quelque chose qui a renvoyé chacun d'entre eux à sa conscience, celui qui s'est empêché de juger de lui. Et surtout, il a Théophile précise qu'il s'est mis à écrire sur le sol et il s'est relevé une fois que le monde était parti. C'est-à-dire qu'il n'a pas humilié non plus ses adversaires. S'il était resté là, en les toisant, avec un petit sourire ironique en disant alors, quel est le premier qui s'en va Peut-être que la femme aurait été lapidée, mais il a eu la sagesse de ne pas les regarder, de ne pas les humilier. Ça, c'est aussi une des grandes leçons de la lutte de l'opulence. Combattre des adversaires, oui, parce qu'il faut les rendre inoffensifs, leur enlever les moyens de nuire, mais pas en les humiliant. Ça, c'est une grande leçon sur la manière de sortir d'un conflit. Voilà. Je viens citer cette phrase du pape François dans la joie de l'évangile, son premier texte dès l'année de son élection, pour souligner qu'il ne faut pas confondre la paix évangélique avec le refus du conflit. La paix sociale ne peut pas être comprise comme un irénisme ou comme une pure absence de violence. Les revendications sociales, qui ont un rapport avec la distribution des revenus, l'intégration sociale des pauvres, les droits humains, ne peuvent pas être étouffés sous prétexte de construire un consensus de bureau ou une paix éphémère pour une minorité heureuse. La dignité de la personne humaine et le bien commun sont au-dessus de la tranquillité de quelques-uns qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. C'est une conception de la paix qui intègre le conflit et qui refuse un irénisme où on se met tous d'accord, etc., mais sur le dos des plus pauvres et des persécutés. Voilà. Alors ça, c'est le premier point central, on va dire, de la tradition chrétienne concernant la distinction entre conflit et violence. Conflit nécessaire, violence à éviter dans toute la mesure du possible. Mais voilà, dans toute la mesure du possible. Et il y a des fois où les événements nous mettent dans des situations où des acteurs puissants et prennent l'initiative de recourir à la violence matrice, à la guerre, en vue de ce qu'ils croient être leurs intérêts. Et là, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, ça ne perd pas de sa valeur, mais ça ne s'applique pas forcément tout le temps. Il y a des moments où la résistance non violente atteint ses limites. Je viendrai peut-être tout à l'heure si, dans la discussion, si vous voulez, mais il ne faut jamais oublier cette phrase de Gandhi. S'il y a le choix qu'entre la lâcheté et la violence, il faut choisir la violence. Quand on sait à quel point le Gandhi était attaché à la non-violence, ça veut dire que, voilà, il trace lui-même cette limite. Bon. Alors, dans de telles situations, dans la violence qui est imposée par quelqu'un d'autre, et de manière grave, durable, le recours aux armes, sans être une bonne solution, il n'y a pas de bonne guerre, est une solution moins mauvaise que celle qui consisterait à s'en abstenir. Il s'agit alors de légitime défense. J'insiste sur le mot défense, il ne s'agit évidemment pas d'agression. Contre une agression évidente. Cette légitime défense est admise aussi bien dans la charte de l'ONU que dans l'enseignement de l'Église catholique, où je pense que la plupart des églises, sauf justement l'Église mennonite, on parlera plus encore là-dessus, vous verrez qu'il y a aussi une mise au point récente que je signalerai, j'ai trouvé dans un article réforme. Mais restons pour nous en côté catholique, selon le Concile Vatican II, aussi longtemps que le risque de guerre subsistera, il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes. On ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Godu Express 79. Vous voyez, c'est pas avec enthousiasme, mais le Concile met des tas de garde-fous, voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autorité internationale. Sous-entendu, s'il y avait une autorité internationale neutre et puissante, eh bien, ce serait à elle de prendre les armes pour faire cesser une invasion. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et puis, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, c'est-à-dire, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'autre moyen, parce que c'est le pire. Et donc, c'est seulement dans ce cas-là que le Concile admet le droit de légitime défense. Donc les peuples agressés ont le droit de se défendre, y compris par les armes, s'il n'existe pas d'autre moyen. Cela se déduit logiquement aussi du lien étroit entre paix et justice. Est-ce qu'il y a une plus grande injustice pour un peuple que d'être envahi et asservi? Alors, c'est au long des siècles des théologiens, des philosophes, d'abord dans le monde chrétien, au Moyen Âge, au VIIe siècle, puis dans le monde moderne, beaucoup de philosophes, de penseurs politiques ont réfléchi sur la question de la guerre, y compris du point de vue éthique. Eh bien, ils ont élaboré un ensemble de critères pour encadrer ce droit, c'est-à-dire pour veiller surtout à ce que ils n'aboutissent pas à légitimer la guerre comme un moyen normal de résoudre les conflits. Donc, chaque fois, qu'il soit bien perçu et affirmé que ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être comme ça. Mais voilà, on a été mis dans une situation où il n'y a plus que ça pour défendre ce qu'il importe de défendre au nom du moindre mal. Voilà. La guerre est toujours un mal, mais il y a des cas où elle est un moindre mal par rapport à la victoire. Pensons à l'exemple de l'Ukraine. La guerre est un mal pour les Ukrainiens, c'est que pour les Russes, mais c'est un moindre mal par rapport à celui qui consisterait à laisser Poutine faire ce qu'il a l'intention de faire. Voilà. Donc je résume en gros l'enseignement traditionnel et différentes positions en présence. Alors c'est à propos de cet ensemble de critères que le pape François, en 2020, dans Fratelli Tutti, écrit ceci: il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Il est très difficile, faisons chaque mot, il est très difficile. Alors, on peut poser la question, est-ce que vraiment le pape François est en mesure avec ce qu'on a dit avant lui? Est-ce qu'il propose de revenir à la position du deuxième, troisième siècle de notre de l'histoire chrétienne, des théologiens du deuxième, troisième siècle, qui prenaient une position qu'aujourd'hui on appellerait pacifiste? Voilà. Ils n'étaient pas au pouvoir, ils étaient persécutés, il faut voir le contexte. Mais enfin, quand même, il y a eu une période de l'Église où la doctrine officielle, c'était que le métier de soldat n'était pas compatible avec la foi chrétienne. Est-ce que c'est une revue? Je dirais que, en ce qui concerne l'expression guerre juste, c'est pas une rupture parce que, en fait, elle avait déjà presque disparu des textes officiels. Si vous parcourez les déclarations des théologiens, des papes, des évêques, des mouvements chrétiens, etc., depuis 50 ans, vous ne voyez pratiquement plus l'expression guerre juste. Donc, comme si on avait le sentiment qu'il était incongru d'associer un mot positif, le mot juste, avec une réalité comme celle de l'homme. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'expression, il y a ce qu'il y a dessous, ce qu'on voulait dire par là. Et là, même si on récuse l'expression guerre juste, parce qu'effectivement, elle pourrait faire croire qu'il y a de bonnes guerres, mais même si on récuse cela, il faut regarder de plus près sur ce qu'on dit, tous ces critères. Moi, j'ai étudié tout ça, je le sais très bien. Je suis frappé de voir que beaucoup de positions anti-guerre des papes ou des évêques dans les années, la fin du siècle et début du XXe siècle, s'appuient précisément sur les longues critères de la guerre juste. Pour dire, non, on n'est pas dans ce cadre-là, par exemple, la position contre la guerre en Irak de Bush et des Américains d'Irak. Ça a été critiqué au Vatican et assez largement partout. À partir de quoi? Non pas en disant Jésus a dit aimez-vous, non, à partir des critères de la guerre juste, en disant les critères ne sont pas compris. On n'est pas dans le cadre de la guerre. Donc, méfions-nous, si on n'en voit pas voler l'expression guerre juste, et je crois qu'on a raison de faire, parce qu'elle nous induit en erreur, etc. La qualité quand même de la réflexion qui amène à distinguer quand est-ce que c'est juste et quand est-ce que c'est pas juste de prendre des armes, on peut pas la,
on pourrait envoyer au magasin des antiquités.
Elle peut servir encore. Tout l'argumentaire, notamment contre les armes nucléaires, tout l'argumentaire des assistants sur contre les armes nucléaires, s'appuie sur les critères de la virtude. Il n'y a pas de virtude possible avec des armes nucléaires. Pourquoi ? Pas parce que c'est particulièrement dégueulasse, je ne sais pas. Non, parce que ça ne respecte pas les critères de discrimination et de proportionnalité. Donc, c'est intéressant de voir que ce que dit le pape François à propos du contenu de ces fameux critères, il juge qu'il est très dans la citation que je vous ai donnée tout à l'heure de Fratelli Tutti. Il juge qu'il est très difficile de défendre ces critères rationnels. Mais il a dit très difficile, il n'a pas dit impossible. S'il avait dit impossible, on pourrait dire qu'à ce moment-là, de son point de vue, et donc du point de vue qu'il invite tous les chrétiens à partager, il invite, hein, il ne force pas, mais s'il avait dit impossible, c'est-à-dire les bons vieux critères sont impossibles à respecter, ce serait l'équivalent d'inviter tous les militaires à démissionner. Il y aura peu moyen pour le militaire d'exercer ce métier en raison de la tout cas, la tradition catholique. Il n'est pas législateur. Voilà, le métier militaire reste compatible avec l'éthique chrétienne à condition de respecter scrupuleusement ces critères et de ne pas s'en servir simplement pour un habillage visant à se conforter la conscience. Et puis dans le même temps, je crois qu'il faut, c'est important de souligner, dans le même temps que le pape relativisait, il était un bémol sur la virtus, sur l'expression humaine, sur les critères, un bémol seulement, non pas. Pas davantage. Une forte revalorisation de l'action de l'ambiance. Il a organisé, béni un colloque au Vatican en 2017, entièrement consacré à l'action de l'ambiance. Et puis, à plusieurs reprises, il a des discours, des déclarations invitant à redécouvrir la force de la non-violence puisée dans les mondes. Donc voilà, le petit rappel que, enfin rappel, je ne sais pas ce qui me semble important. Oui, le pape François consacre à la non-violence son message du 1er janvier 2017, dans lequel on peut relever une rigoureuse condamnation du recours à la violence comme réponse à la violence. Un tel recours conduit, dans la meilleure des hypothèses, à des migrations forcées, à des voyages de souffrance, d'importants gaspillages. Dans le pire des cas, elle peut conduire à la mort physique et spirituelle de beaucoup, voire de tous. Bon, après ce petit rappel, venons sur des questions contemporaines. Donc, je vais vous proposer quelques réflexions sur la Palestine et sur l'Ukraine. Sur la Palestine, dont je viens d'apprendre par ce qu'a dit tout à l'heure Véronique, qu'il existe ici, dans cette paroisse, dans cette communauté, un groupe, qui l'a fait.
Une enseigne sur l'histoire de la Palestine.
Donc, probablement, vous avez suivi ça de près, et je ne vais rien vous apprendre. Moi, ce que j'ai vu dans la presse, et puis, c'est la détresse, pour ne pas dire plus, des Palestiniens chrétiens, par rapport à leurs frères occidentaux. Ils s'inquiètent du faible écho que rencontre la cause auprès des chrétiens en Europe. Là, je renvoie un article dans La Vie du 18 décembre dernier, 2023, qui mentionne un pasteur de l'église évangélique luthérienne de la Nativité à Bethléem, Winter Isaac. Il dénonce dans La Vie un silence complice des églises occidentales face au bombardement israélien de la bande de Gaza. Déclaration aussi de Mgr Jamal Nader Daibes, vicaire du patriarcat latin en Jordanie après 30 ans en mission en Palestine. Il exprime sa déception face à la position de l'Église de France. Même dans les réactions de l'Église de France, nous avons l'impression que les victimes palestiniennes viennent au second plan des tortures. Les Palestiniens ont le sentiment d'un deux poids, deux mesures, confirme le dominicain Jean-Jacques Pérennes, que connaissez-vous entre nous ici, l'actuel directeur qui vient de, qui était jusqu'à tout récemment directeur de l'École publique et archéologique française de Jérusalem, de 2015 à 2023. J'ai été membre de la commission de justice et paix, que je connaissais comme ça, Joseph, non, peut-être pas. Hein. Voilà. Et il écrit ça, il se sent abandonné par l'Occident au nom du droit à la guerre d'Israël. Comme si ce conflit commençait le 7 octobre. Et là, il faut aussi faire une toute autocritique de conflit il y a 70 ans. Il n'a pas commencé le 7 octobre, et c'est vrai qu'il a pris à partir du 7 octobre des formes particulièrement dramatiques qui ont réveillé l'attention. Mais l'injustice dont était victime depuis très longtemps le peuple palestinien, ben voilà, l'injustice la laisse pourrir, 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 et ça finit en explosion de violence. Voilà, quelques. Bon, du côté des Mennonites, vous avez des choses dans l'article. C'est un article de réforme du 5 mai 2022. Les Mennonites des États-Unis ont décidé en 2017 de ne plus investir dans les entreprises qui tirent profit de l'occupation israélienne des territoires occupés. Et en ce moment, ils mènent une campagne en faveur d'un cessez-le-feu, dénonçant devant le Capitole les crimes de guerre des forces israéliennes. À Philadelphie, devant une église, les manifestations unissent des chrétiens, des juifs et des musulmans pour protester contre les crimes de guerre et exiger un cessez-le-feu. Ça, on le trouve sur le site web de International Nonviolence. C'est intéressant si vous suivez l'actualité de près. En ce moment, ça peut vous paraître surprenant, mais aux États-Unis, ceux qui soutiennent le plus vigoureusement Netanyahou et sa politique, ce ne sont pas les juifs, ce sont les évangéliques, les chrétiens évangéliques. Et les juifs sont de moins en moins nombreux à soutenir le gouvernement, la politique de Netanyahou. C'est chez les évangéliques que, bon, c'est pour des raisons théologiques, je ne sais pas si parmi vous des spécialistes des évangéliques, ils ont cette croyance bizarre que c'est quand le peuple juif tout entier sera converti au christianisme que Jésus reviendra. Voilà. Donc, pour que Jésus revienne, il faut d'abord convertir tous les juifs et donc les protéger pour qu'ils ne soient pas massacrés. Enfin, vous voyez le genre de raisonnement dans lequel ils sont entraînés. Et ça a des conséquences politiques dramatiques. Je ne dis pas que tous les évangéliques pensent ça, attention, hein, mais c'est un cours extrêmement fort dans les évangéliques américains, notamment ceux qui s'efforcent de faire réélire M. Trump, comme vous savez. Voilà. Les églises chrétiennes de France et d'Europe ne sont pourtant pas restées muettes. Je crois que ce serait injuste de dire ça. Les conférences des églises européennes et le Conseil des conférences épiscopales d'Europe ont appelé un cessez-le-feu. Vous allez me dire, c'est moins compliqué. Donc, même appeler un cessez-le-feu, aujourd'hui, c'est perçu parfois comme une prise de position anti-israélienne. C'est une position anti-Netanyahou, ça c'est sûr, mais ce n'est pas forcément une position anti-israélienne. Bon, quelques remarques sur la Palestine, mais on pourra tout à l'heure, si vous voulez, il y a des gens plus compétents que moi à ce sujet. Sur l'Ukraine, alors là, il faut dire quand même qu'il y a un long contentieux entre François et les Ukrainiens, dans la mesure où pendant pas mal de temps, dans les premiers temps du conflit, la position du pape François était ambiguë. Il semblait mettre à l'égalité l'agresseur, sans jamais le nommer d'ailleurs, et l'agressé. Voilà. Une mise au point a été faite en août 22 par le Saint-Siège, et qui a peut-être dû ratifier sur le fond, quant à la guerre à grande échelle en Ukraine, initiée par la Fédération de Russie, en août 22, déjà, l'équilibre n'est plus respecté entre les deux. C'est très clairement la faute à la Russie. C'est le communiqué du Saint-Siège. les interventions du Saint-Père sont claires et sans équivoque pour la condamner comme moralement injuste, inacceptable, barbare, insensée, répugnante et sacrilège. Voilà. Donc, c'est vrai que dans ses discours et ses prises de position, François a pu un temps laisser penser qu'il ménageait, comme on dit, la chèvre et le chou. Je pense que la clarification est intervenue assez tôt. Mais le problème majeur, c'est en fait dans la tradition diplomatique du Vatican, ça c'est pas propre au pape François, il y a toujours cette idée qu'il faut laisser sa chance à la diplomatie. Le Vatican n'est de toute façon pas de force militaire, Dieu merci. Tout ce qu'il peut faire dans le champ international, en cas de conflit, en cas de guerre, c'est de maintenir des canaux pour éventuellement être utile un jour comme médiateur, voilà. Laisser sa chance à la diplomatie. Et si le pape devient trop explicite, il nomme Poutine comme responsable. Là, vous avez vu, c'est la Fédération de Russie qui a tapé dans le comité, il n'y a pas le nom de Poutine. Il perd toute possibilité de servir de médiateur un jour. Voilà en gros les raisons. Je ne crois pas qu'il y ait d'ambiguïté dans la tête du pape, mais dans sa position telle qu'elle est la sienne, avec l'espoir de pouvoir un jour être utile comme médiateur, ça justifie à ses yeux cette position modérée. Et puis il y a un point, il ne faut pas négliger ce point, il y a un point constant de ces déclarations, c'est depuis qu'il est élu, probablement avant, mais enfin depuis qu'il est élu, le pape a cessé de critiquer très vigoureusement les fabrications d'armement, le gaspillage dans les fabrications d'armement. Donc il lui est très difficile aujourd'hui de préconiser la principale, je ne dirais pas la seule, mais la principale manière de soutenir l'Ukraine, c'est de lui livrer des armes. Et ça, c'est une ambiguïté qu'on va retrouver dans d'autres déclarations. On soutient moralement l'Ukraine, mais on ne va pas lui livrer des armes dans des lieux pacifistes, non violents, etc. Or, il suffit d'écouter les experts du conflit ukrainien. C'est une question de victoire ou de défaite. Si dans les mois qui viennent, l'Ukraine ne reçoit pas des quantités massives d'armement, sa défaite est inscrite dans le rapport des forces. Voilà. Donc, c'est un point sur lequel le pape ne peut pas se déjuger, encourager les exportations d'armes vers l'Ukraine, ça le prendrait à contre-pied par rapport à tout ce qu'il a dit sur les problèmes des armements depuis des années. Et cela dit, sur ce qu'il pense vraiment, je crois qu'il y a quand même pas mal de signes qui montrent où va son cœur. En décembre 22, il pleure en évoquant l'Ukraine martyrisée. À part 2023, il prie pour le bien-aimé peuple ukrainien. En août 2023, alors il y a eu du bon un malentendu parce qu'il, dans un discours, il a invité les jeunes Russes à être fiers de la grande Russie. C'est un profond malentendu. Les gens ont cru qu'il avait pris position pour l'extension de la Russie, de la grande Russie. En fait, tous ceux qui connaissent l'histoire savent que la grande Russie, c'est une expression traditionnelle. Et d'ailleurs, dans cette déclaration d'août 2023, le pape citait, pour donner un exemple aux jeunes, des grands noms du passé de la Russie, pas d'aujourd'hui, du passé. Soyez fiers, c'est comme si on reprochait au pape d'encourager les jeunes à être fiers de Tolstoï, de Dostoïevski, ou de Poisson. C'est normal qu'on soit fier de la culture de son pays. Malheureusement, l'expression « grande Russie » a pu être souvent mal entendue. Une autre formule qui est importante à connaître dans la diplomatie du Vatican, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de la miséricorde, qui consiste à ne jamais considérer rien ni personne comme perdu. dans les rapports entre nation, peuple et État. C'est pas perdu. Ouais. Pour le moment, si, mais un jour, une porte s'ouvrira, un jour, il faudra. Ouais. C'est une attitude fondamentale dans la diplomatie de la vie, qui n'est pas du tout liée spécialement au conflit ukrainien, qui explique aussi la position du Vatican vis-à-vis de la Chine, l'accord qui a été très critiqué par certains sur le mode de désignation des évêques chinois, etc. Ne jamais considérer rien ni personne comme perdu dans les rapports entre nations, peuples et États. Un autre principe cher à leur livre au pape François, dès 2013, dans la joie d'évoquer, le temps est supérieur à l'espace. C'est un des principes qu'il a énoncé dans la joie d'évoquer. C'est-à-dire, garder toujours la perspective du long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. Ça peut passer comme un peu une sagesse un peu courte vue, mais non, il faut voir le reste. Voilà, pour ce qui concerne d'autres églises, puisque je sais que vous allez avoir une conférence, une soirée d'échange autour des Mennonites, je ne vais pas m'attarder sur cette communauté très particulière de la foi chrétienne. Mais vous pourrez trouver dans l'article de réforme que j'ai cité tout à l'heure des exemples du pasteur Roman Baccara, qui emploie l'expression c'est une guerre juste, donc des Ukrainiens, c'est des Mennonites ukrainiens. C'est une guerre juste. Et le pasteur Makayov, qui est aumônier militaire dans l'armée ukrainienne. Donc ensuite, je ne sais pas comment il va se débrouiller en conscience avec. Communauté mennonite et ses positions extrêmement non violentes, pour ne pas dire pacifiste, mais voilà, c'est important de savoir que ça existe aussi, que les événements du temps obligent parfois à modifier des positions pourtant extrêmement traditionnelles de la tradition mennonite. Je vous renvoie aussi, alors là on sort des mennonites, un orthodoxe, que je vous invite à lire. Dans la croix du 20 février 24, oui, c'est bien un mois, l'interview d'un philosophe ukrainien, Constantin Sigov, du directeur du Centre européen à l'Université de Kiev, l'interview de Élodie, fait par Élodie Moreau. Je pense que ça vaut le fait d'être entendu ce que dit ce responsable philosophe théologien. Élodie Moreau l'interroge sur l'instrumentalisation du christianisme par Poutine. Et Sigov répond qu'il est nécessaire de dire clairement qu'il s'agit d'une apostasie, d'une profanation radicale, d'une instrumentalisation absolument cynique du christianisme par deux anciens du KGB, Poutine et Kirill, patriarche. C'est le rôle des chrétiens d'Europe de s'élever contre cette manipulation du spirituel et cette perversion du discours évangélique, de rappeler le décalogue interdit de tuer, de voler, de sacrifier, de massacrer. On oublie trop souvent de souligner que Poutine ne croit pas aux valeurs derrière lesquelles il cherche à dissimuler sa violence. Il entretient avec les idées un rapport qui n'est lié à aucune conviction. Il les utilise pour anéantir son ennemi. Alors, ces réflexions personnelles à ce monsieur Sigov, il faut comprendre qu'il y a deux manières de détruire le christianisme. Staline était ouvertement athée, anticlérical, dynamité des églises. Poutine prolonge cette méthode, mais sous un mode plus néfaste encore, il est en train de dynamiter le sens, les paroles, les expressions, les métaphores et les symboles chrétiens. Nous devons donc toujours nous fier aux actes et ne pas nous laisser ensorceler par les mots. Ce qui est protégé par le poutinisme, c'est la religion de la guerre, la religion du plus fort. C'est une secte militariste. Bon, c'est des formules fortes, mais voilà, ça vaut la peine d'être entendu.
proche de nous, ici, pour beaucoup de chrétiens, il est clair que, enfin, il semble qu'il y a un consensus assez large parmi les chrétiens occidentaux, que l'Ukraine est agressée et a le droit de se défendre. Mais beaucoup aussi se taisent sur la nécessité de livrer des armes. C'est un point qui fait débat. Et je prends un bon exemple à la déclaration de Pax Christi International de février 2023. Pax Christi, un grand mouvement catholique pour la paix, très actif, du dialogue, de la rencontre, etc. Donc, ce document de Pax Christi parle très clairement de guerre d'agression, désigne clairement la Russie comme l'agresseur de cette invasion brutale, rappelle que le droit international accorde à chaque nation souveraine le droit de légitime défense, mais ne parle pas du tout de la nécessité de livrer des armes à l'Ukraine. Je crois qu'il y a là un point, je ne dirais pas de divergence, mais de forte nuance des positions qui sont favorables à l'Ukraine, au plan des principes, au plan de la diplomatie, au plan des sentiments, etc. Mais quand il s'agit de venir aux décisions qui pourraient éventuellement modifier le rapport de force sur le terrain, là, dès qu'il s'agit des armements, il y a un recul, enfin, une hésitation, il n'y a plus de consensus. J'en viens à une autre question qui m'a été posée. La promotion de la non-violence par les églises est-elle encore d'actualité? Alors d'abord, je m'interroge, est-ce que vraiment la non-violence a été promue par les églises? Je dirais par les Mennonites, oui, ça c'est sûr, ça fait partie de l'histoire de leur doctrine. Mais les autres, du côté catholique ou protestant, je dirais qu'il faut distinguer promouvoir, recommander, et faire une règle absolue, qui s'impose aux croyants, même aux situations d'itinérance. Je dirais, aujourd'hui, il n'y a pas de problème en ce qui concerne la promotion de l'action de l'homme, que ce soit dans les textes catholiques, dans les textes protestants, partout. Chaque fois qu'on peut dire du bien de l'action de l'homme et la recommander, maintenant on le fait. Ce n'était pas le cas il y a 50 ou 60 ans. Bon. Donc là, il y a un réel progrès. Surtout que, à la question, on s'aperçoit que promouvoir l'action de violence, ça fait partie, c'est tout à fait compatible, même avec l'héritage le plus classique, y compris celui de la tradition dite guerre juste. Parce que cette tradition précise que aucun recours aux armes est légitime s'il existe d'autres moyens pour résister à une agression et celui d'un seul. C'est un des critères, un de ces fameux critères, c'est celui qu'on appelle l'ultime recours. S'il existe une autre manière de mettre un terme à l'agression, ou au génocide, ou au massacre, s'il existe de moyens, bien sûr, il faut les préférer. Enfin, par exemple, je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure dans la phrase de Gaudium et Spes, du Concile Vatican II, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement spécifique, si vraiment il y en a plus d'autres, c'est seulement alors là qu'une guerre peut être, c'est ce qui est juste. Alors, pour ce qui concerne la France et les gens que je connais d'un peu plus près, puisque c'est le mouvement que j'ai mentionné tout à l'heure, du mouvement alternatif non violent que j'ai contribué à créer en 1974 avec d'autres, dont le principal est mort il y a peu de temps, Jean-Marie Muller, c'était le plus connu. Il y avait aussi le général de Vaulardière, Christian Delorme, le prêtre lyonnais, certainement. Eh bien, cette mouvance-là a créé un site internet, bon, il n'est pas son site à elle, mais plus large, le site de l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits, IRNC. Et sur ce site, il y a des choses justement qui montrent une très très profonde évolution par rapport au discours qui était tenu il y a 30 ou 40 ans. D'abord, le rappel que la non-violence n'est pas le pacifisme, mais les recherches d'alternatives à la violence. Bon, on peut se mettre d'accord sur les mots, mais le pacifisme, il y a l'héritage douloureux de Munich, 1938, quand on laisse faire Hitler, et puis après, on a à la fois le déshonneur et la guerre. Hein. Donc, tirant les leçons de ces expériences, la mouvance non-violente des années relevé, disons, dans les années 60-80, c'est l'idée de reprendre le mot de pacifisme et de faire le mot de non-violence avec justement des limites. C'est-à-dire qu'il s'agit de chercher des alternatives. Il ne s'agit pas de condamner la violence en disant c'est pas bien, c'est pas bien. Il s'agit de dire oui, mais quand il y a des raisons d'utiliser la violence, s'il n'y a plus aucune raison, il faut chercher des alternatives à la violence. Donc, la direction de la revue Alternative non-violence, qui trace bien la perspective. Alors, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire quand l'agression survient alors que les alternatives n'ont pas été élaborées? Alors, les pacifistes disent à ce moment-là, ben, tant pis, c'est trop tard, mieux vaut subir l'injustice que de se défendre par les armes. Mais la majorité des militants non-violents se résignent à justifier le recours aux armes pour éviter un mal plus grand encore que la guerre. Et ils se réfèrent au mot de Gandhi que je citais tout à l'heure. S'il y a le choix entre la lâcheté et la violence, il faut choisir la violence. Alors, cette question traverse en ce moment la mouvance non-violente. Voici par exemple ce qu'on peut lire sur le site de l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits. Ce qui est recommandé. Soutenir les formes actuelles de résistance civile et non-violente des Ukrainiens, c'est-à-dire faire aussi de la résistance militaire, heureusement, mais il n'y a pas que ça. Soutenir la résistance des démocrates russes, des déserteurs russes, des objecteurs russes, des maires de soldats. Maintenir et renforcer les sanctions économiques et politiques occidentales contre le régime de Poutine. Renforcer l'envoi d'armes et munitions dont a besoin la résistance ukrainienne. Renforcer les équipes d'intervention civile de paix et de médiation favorisant la justice, le dialogue et la réconciliation entre Ukrainiens pro-russes et Ukrainiens europhiles, et à terme, le jour venu, entre Ukrainiens et Russes. Voilà, toujours avoir le souci de penser à l'après. Il faut mener le combat qui nous est imposé, qui leur est imposé pour le moment, mais il faut, ça n'interdit pas de penser à l'après. Voilà. Soutenir les poursuites judiciaires internationales contre Poutine et contre les auteurs de crimes de guerre. Apporter une aide économique et financière à la reconstruction de l'Ukraine. Voilà. Toujours sur ce site, un non-violent exprime sa position personnelle et c'est quelqu'un très actif que j'ai bien connu et qui reste toujours très actif dans la lutte contre l'arme nucléaire, mais qui, ouais. Quand je vois ce qu'il écrit maintenant, ça montre l'ampleur des changements auxquels l'actualité nous a contraints d'aller. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, ne pas donner à l'Ukraine les moyens de se défendre militairement contre l'agression russe signifierait que les États de l'Europe laissent la dictature impérialiste de Poutine écraser et dominer un pays de l'ex-Empire soviétique qui veut avancer vers la démocratie. Les démocraties d'Europe ont laissé Poutine bombarder la Syrie, annexer la Crimée, l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, le Donbass. Elles se réveillent enfin. Oui, il faut contribuer à la formation de militaires ukrainiens. Oui, il faut donner à l'armée ukrainienne les armes modernes et les munitions pour faire face à l'agression russe. La paix, oui, bien sûr, mais pas au détriment de la justice et de la liberté. C'est pourquoi nous préférons parler de résolution non-violente des conflits. La production d'armes montre que l'humanité, et notamment nos démocraties très imparfaites, n'ont pas encore substitué à la contre-violence la défense non-violente de la justice et de la liberté. Une telle défense ne s'improvise pas, elle suppose une préparation, une mobilisation forte de la population, des choix, des centralisations, et d'autonomie alimentaire, énergétique, politique, dont nous sommes encore loin, raison de plus pour s'y atteler dès maintenant. C'est signé de Étienne Godino, celui qui a mis principalement ce site sur lequel vous allez, parce qu'il y a énormément de choses. C'est une mine, une bonne mine, le site de l'IRNC, pour connaître tout ce qui existe en matière de tout ce qui a existé dans l'histoire en matière de non-violence. Voilà, on arrive au bout. Je ne voudrais pas terminer sans ayant l'air d'avoir évité, mais ça prendra juste deux minutes. Une autre question qui était dans la commande que j'ai reçue de Dominique. Qu'est-ce qui permet à l'épiscopat national, français par exemple, d'avoir du recul ou de l'influence? Eh bien, la réponse est simple, c'est que je ne sais pas. Je constate, avec la très grande majorité des observateurs, soit les journalistes, les sociologues, que la parole des évêques français a perdu beaucoup de son influence. Alors, on peut mettre plus le courage de parler, ou qu'ils ont des compétitions, etc. Moi, je crois qu'il y a des causes plus structurelles, bien sûr, le courage des personnes. Ça compte. Je connais des évêques courageux, je pense à Mgr Riolé, évêque d'Orléans dans les années 70-80. Voilà. Les raisons plus structurelles, j'en vois que trois, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. La démographie. De moins en moins de catholiques dans notre pays, dans nos églises. Or, ils sont de moins en moins nombreux. C'est un constat qu'on peut le regretter, mais je veux dire, ça explique que quand vous représentez une proportion de la population qui est de plus en plus faible, vous avez de moins en moins de chances d'être entendu par les pouvoirs publics, par les journalistes, par... Donc je crois qu'il faut se rappeler ce changement absolument considérable, par rapport aux années 1950-1960, en ce qui concerne tout simplement l'importance des catholiques dans la société française. Deuxièmement, il y a la crise des abus. Je crois que ça a beaucoup, beaucoup nuit, bien sûr, à tous ceux qui ont souffert de ces abus. Et c'est toujours les victimes qu'il faut mettre en avant et dont il faut parler en premier, c'est évident. Mais ça aussi, beaucoup, beaucoup nuit, je crois, à la crédibilité de l'Église quand elle parle sur n'importe quel sujet, que ce soit l'immigration, je crois. L'Église ne peut plus continuer à parler avec courage de l'immigration, contrairement à ce qu'on peut croire, mais elle est de moins en moins entendue. Et puis, je dirais qu'il y a un décalage culturel dont l'Église ne prend pas suffisamment conscience, à mon sens, décalage culturel entre certains points du fonctionnement actuel de l'Église et ce qui devrait aller de soi pour la majorité de nos contemporains. Je pense notamment à la place des femmes dans l'Église. Voilà. Ces trois, il y en a d'autres, notre échange en train de sortir, mais je crois que ce sont trois causes, trois bombes qui tiennent encore une fois à la sagesse ou au courage de tel ou tel évêque ou telle personne. C'est structurel. La démographie, c'est structurel. La crise des abus, ça dure depuis longtemps, ça n'a émergé que depuis quelques dizaines d'années. Enfin, c'est. Ses effets sur l'opinion publique et sur la crédibilité du discours de l'Église, ces effets sont considérables. Et puis je crois qu'effectivement, tant que l'Église ne frappe de fait une petite concession au pouvoir des femmes dans notre Église, sa crédibilité continuera à être très, très atteinte. Voilà, c'est un message plutôt pessimiste, hein. Mais je vous voulais. Vous n'étiez pas là pour rigoler. Voilà, on ouvre le débat.
D'abord, qu'est-ce qui mène le. Ce serait bien que vous nous serviez.
Ah oui, j'ai pris
quelqu'un. Je pourrais répondre en parlant comme ça, vous m'entendez quand même. Je crois qu'il y avait quelqu'un là.
C'est comment
qui est là-bas. Oui.
Je
réfléchis
un peu sur. Sur ce que vous disiez sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans. Mal, d'ailleurs, est-ce que le fait d'accepter une réponse militaire n'est pas justement fait, ça ne va pas renforcer la dynamique violente de la gestion de l'Ukraine, du conflit alors, évidemment, je vous connais depuis longtemps à travers vos livres, vos deux ouvrages. Et vous avez quand même pu montrer que la Norvège, d'autres pays, ont pu résister à l'agression nazie, justement par des procédures de décentralisation, de mise en lien, etc., avec l'occupant. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a quand même une opposition entre une gestion non violente, parce que vous dites, quand vous avez rappelé l'article, qui est décentralisation. Par rapport à une gestion violente qui est hiérarchisée, c'est la carrière, on ne s'en plus. C'est-à-dire, si on accepte, et je n'ai pas la réponse, hein, d'accord, hein, votre frère, c'est pas bien malin ce qui est la solution proclamée. Mais je pense qu'il y a cette jeune famille qui s'oppose. Et je me dis, est-ce qu'une réponse non violente n'est pas, par exemple, ce qui va être fait, de confisquer les 300 milliards de trade. Est-ce qu'il n'y a pas les 300 milliards, vous savez,
ah, oui, oui, j'en ai pas plus à faire, je suis pas là.
Bien sûr.
Je vais signer une pétition un peu plus tard. Un petit circuit.
Vous voyez un peu mon interrogation. C'est une vraie interrogation, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a un choc de dynamique. Et quand on dit oui à une réponse militaire, on exclut que la réponse non violente. Je ne pense pas que la France va décentraliser, opter pour l'autonomie alimentaire, mettre en place tout ce que vous avez indiqué dans le livre de la situation civile.
Il y a eu les classiques.
Bah oui, tant qu'à faire, autant qu'il y ait du temps. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois très bien. Mais je ne pense pas que ça répond tout à fait à la question d'aujourd'hui. C'est-à-dire, dans les modes de soutien à l'Ukraine, je ne vois pas comment, même si on demande des tas de choses de la société civile, de la décentralisation en France ou du reste de l'Europe, ça remplace la nécessité urgente, il s'agit de quelques mois, d'avoir des armes très nombreuses pour empêcher d'être. S'il n'y a pas le nombre d'armes nécessaires qui arrivent d'ici l'été, les armées vont pouvoir circuler plus rapidement, c'est la boucle qui est. Donc, d'ici le mois de mai, ce sera l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. En fait. Plusieurs experts de l'Ukraine. Donc, moi, je veux bien qu'on prenne des choses qui jouent sur le moyen terme et de long terme. Dans la solidarité, et tout. Mais je pense qu'on ne peut pas s'accoser de choses aussi simples. Donc là, juste pour dire, ceux qui ne connaissent pas, donc, il y a des études historiennes sur la manière dont les sociétés, même sous le joug du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, ont pu quand même faire des fortes résistances. J'ai les professeurs norvégiens, c'était l'enseignement qui a été. Bien que la Norvège soit sous la coupe des nazis, les professeurs norvégiens ont résisté à la nazification de l'enseignement. Voilà, c'est un bel exemple. Mais pour se débarrasser du nazisme, il a fallu quand même le débarquement de juin 1944. Hein. C'est pas la résistance des professeurs norvégiens qui a sauvegardé ce qu'on a vu, mais en attendant, ça va être.
Dans les critères de la guerre, comme le dit plus juste, mais. Il y a des critères quand même qui permettent de dire qu'une action armée est juste. Tu as dit tout à l'heure, c'est la légitime défense. Dans le cas du Crève, c'est évident, c'est la légitime défense. Dans le cas des pays comme le nôtre, comme la plupart des pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, là c'est la légitime défense de l'Ukraine.
Oui.
Dans quelle mesure est-ce que les chrétiens, puisqu'on parle d'eux, peuvent considérer que de soutenir l'Ukraine, d'abord par les armes, et éventuellement au-delà, peut être justifié dans la mesure où c'est l'Ukraine qui est victime, et pas nous.
question avait été posée par Jean-Paul II au moment de la Yougoslavie dans les années 90, où il disait un peuple.
Il disait ça, je cite de mémoire, parce que j'ai tellement utilisé cette citation que j'ai pratiquement en tête. Il disait, je pense que c'était en 93 ou 94, lorsque un peuple est en train de succomber sous les coups d'un injuste agresseur, les États n'ont plus le droit à l'indifférence. Il semble bien que leur devoir soit de porter secours à ce peuple. Donc, autrement dit, il y a un devoir de solidarité, même si on n'est pas soi-même attaqué, mais si c'est des gens sans être qui ne peuvent pas défendre eux-mêmes à cause du rapport de force, etc. Il y a, du point de vue du pape Jean-Paul II, je crois, un devoir moral de soutenir. Enfin, c'est ce qu'on appelait à l'époque le droit d'ingérence. Qui a été mal formulé, mal affecté, l'objet de débat qui font que. Oui, puis il y a la question du poids de mesure. Pourquoi on va soutenir les Croates, c'était l'État de les Bosniaques. Pourquoi on va soutenir les Bosniaques et on ne fait rien contre les Tibétains opprimés par les Chinois? C'était une vraie question, mais il y a une réponse, c'est le réalisme. Le réalisme est une exigence éthique. Ne pas faire les choses uniquement pour le principe, donc elles n'ont aucune chance d'aboutir, ça fait partie aussi du jugement éthique. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire pour défendre la culture tibétaine partout, par tous les moyens qu'on a, on n'en a pas beaucoup. Mais ça veut dire que le leader politique qui aura dit oui, on a aidé les Bosniaques à se libérer, on n'a rien fait pour les Chinois. Et il faut dire oui, c'est triste, c'est comme ça, c'est le rapport de force. On a dit on n'a rien fait pour les Tibétains, excusez-moi qui. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous proposeriez de faire pour que les Tibétains retrouvent la liberté. Moi je ne sais rien. Et pourtant, en termes de bagage culturel, de nombre de vies, etc., tout aussi important de sauver le Tibet que l'Ukraine. Mais.
Les minorités urbaines et les minorités indiennes, qui sont notamment les Tibétains, qui sont persécutés dans tous ces pays.
Les situations on a évoqué particulièrement l'Israël, les situations de guerre qui sont nombreuses sur la planète génèrent, je dirais, des effets collatéraux, comme des disettes, des pénuries alimentaires, parce que ce ne sont pas des facteurs qu'il faudrait souligner, car parfois les répercussions peuvent être indirectes. On a vu à un moment donné, entre l'Ukraine et la Russie, la répercussion sur le Maghreb, l'arrêt des exportations. Je crois qu'on peut en dire autant que ce qui se passe en Éthiopie, en Érythrée, enfin, on va pas prendre la liste des pays qui sont sujets à des conflits et à des guerres, et la conséquence sur la souveraineté alimentaire des peuples. Je dirais même qu'ils connaissent même des dizaines.
Oui, vous avez tout à fait raison. Là, c'est le rôle de l'avantage des gens sur le terrain ou des ONG internationales qui ont des gens sur le terrain que de rappeler ce genre de choses, bien sûr. Oui.
Je reviens sur l'engagement. Alors, quand tu as dit tout à l'heure que les chrétiens, enfin les catholiques de France soutiennent l'Ukraine, mais à condition de ne pas trop livrer d'armes.
Certains
d'entre eux,
il y a une division, c'est un peu tous les
Mais est-ce que ne pas soutenir davantage militairement, enfin, par les armements l'Ukraine, est-ce que c'est une question morale ou est-ce que c'est une question financière? Parce qu'il y a ça aussi, ça coûte cher. Dans un pays qui est très très endetté. Et ça, c'est pas seulement une question pour les chrétiens, c'est une question pour les Français.
Oui, c'est pas simplement une question pour une question financière, bien sûr. Mais il y a tout simplement qu'on n'en a pas fabriqué suffisamment. Hein, en ce moment, la pénurie d'armes vers l'Ukraine, ça vient du fait que pour livrer à l'Ukraine le nombre d'armes qu'il lui faudrait, il faudrait dégarnir l'armée française, l'armée espagnole, l'armée italienne, l'armée anglaise, qui le font en partie. Hein, et c'est un choix.
Est-ce qu'il n'y a pas un choix stratégique là? Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça l'idée que si on va plus loin, on va rentrer vraiment dans le conflit avec la Russie,
oui, oui.
Et que ça, ça fait peur?
Oui, tout à fait, ça fait peur, et puis, à juste titre. Oui, c'est sûrement quelque chose qui est dans l'esprit. Oui, je suis étonné. L'essentiel, c'est que l'issue du conflit, ce sera les élections américaines. Si Trump est élu, une fois qu'on peut dire au revoir à l'Ukraine libre, parce que déjà Biden, il traîne un peu les pieds, mais alors Trump, ce sera fini. C'est là qu'on voit tout se tient, hein, tout se tient.
Vous avez parlé de la difficulté des deux à commencer à entendre les chrétiens palestiniens. J'avoue que personnellement, j'ai été choqué par la déclaration des évêques à la suite de la conférence des évêques de France. Déclaration, c'est le compte rendu, je ne sais plus combien de pages. Et là, il y a une page et demie, où, bien sûr, on demande l'arrêt de la guerre, on demande la création d'un État palestinien, mais je dirais qu'on a vraiment l'impression que deux poids deux mesures en ce qui concerne Israël et la Palestine. Une différence très, 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 très nette. Et si vous voulez, on a l'impression qu'ils n'entendaient pas Monseigneur Sava dans le temps, mais aujourd'hui, la parole de Monseigneur Pizzavala est très forte, aussi bien après le 7 octobre que dans son homélie de Noël, où il demande que l'on reconnaisse ce qui se passe là-bas depuis 50 ans, mais ça, les deux Français, non, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Et en ce qui concerne le projet avec la guerre aujourd'hui, alors là, c'est pas exprimé clairement, oui, c'est feu, tu sais, feu, mais en ce qui concerne la reconnaissance du peuple palestinien susceptible d'échanger avec le peuple israélien, ça, c'est très difficile pour nos évêques.
C'est pas seulement pour nos évêques, hein. C'est l'ensemble de l'opinion des chrétiens de France. Est-ce que c'est aux évêques à faire les analyses géopolitiques du conflit? Ils y connaissent. Quelques-uns, si, quand même, Dieu merci. Mais moi j'ai été pendant la vie de Joseph de Séguin, pendant 7 ans, secrétaire national de la Commission Justice et Paix de l'Église de France. On avait beaucoup de mal à les intéresser. C'est pas qu'ils étaient contre ou tièdes, etc. Tout simplement que ça ne fait pas partie de l'agenda, comme on dit. L'agenda d'intérêt, c'est du problème de son diocèse. De temps en temps, en fait, telle ou telle question internationale, si vraiment ça. Mais il faut se rendre compte, non, ça devrait être des experts en avait quelques-uns qui participaient. Moi, je me rappelle Joseph Maillard, par exemple, ou d'autres. Il y a des choses assez courageuses, mais être un diocèse, enfin, je ne sais pas, vous avez. Supposez que vous êtes évêque de ce diocèse, je ne connais pas, donc je prends l'exemple tout à fait au hasard. Je connais bien l'évêque de Saint-Denis, en revanche. Mais supposez qu'il vous accorde une heure d'entretien. Le comité palestinien, par exemple. Je suis sûr qu'il vous écoutera très volontiers pendant une heure avec exposé nos idées. Mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire ensuite? Vous voyez, c'est ça. C'est pas. Je ne veux pas dire. C'est la même catégorie des uns, ils ont ces problèmes de qu'est-ce qu'on va faire avec telle paroisse, qu'est-ce qu'on va faire avec tel mouvement, qu'est-ce qu'on va faire avec tel scandale, encore un prêtre, etc. C'est ça le quotidien. La Palestine, bien sûr, qui va y être attachée, parce que, mais qu'est-ce qu'il peut. Alors, sauf s'il y a un mouvement de pression très fort de son diocèse, du chrétien, du manifeste, etc., là, il commencera à. Autrement dit, je crois qu'il ne faut pas incriminer trop vite les évêques en tant que personnes. C'est l'ensemble du peuple chrétien qui n'a pas pris cette question suffisamment au sérieux pour en faire un mouvement susceptible de modifier la parole. Parce que dans les années 80, l'apartheid en Afrique du Sud était un mouvement de ce genre-là, par exemple. N'imagine pas, hein, bon, c'est pas très puissant, enfin quand même, cet événement. N'imagine pas un évêque français qui aurait demandé de soutenir une campagne de boycott d'un produit sud-africain qui aurait refusé de le faire. Peut-être que je suis naïf, mais je bien connu les évêques de cette époque-là vers l'actualité.
J'ai connu la campagne en question,
la campagne contre les oranges, il me semble, oui. Oui. Ah oui, as-tu été?
Oui, j'ai passé un mois en Afrique du Sud pendant la période la plus dure de l'apartheid.
Ah oui.
Maintenant, parce que Foucault était assassiné. En fait, ils ont glissé sur les marionnettes comme.
Oui. Enfin, je pense que j'ai aucun intérêt, moi, de la défendre, qui que ce soit, c'est pas les personnes. Mais je trouve que c'est plus grave, c'est une indifférence massive. C'est tout ça qui nous met en. C'est beaucoup de chrétiens, peut-être, que vous faites partie, je ne sais pas si j'imagine, si les évêques parlaient clairement, ça réveillerait votre chrétien. Pas du tout. Ça ne s'est jamais passé dans ce sens-là. Hein. Sur les migrations, le nombre de chrétiens qui sont engagés pour le traitement juste des migrations, etc. Et ils en parlent à leurs évêques, et leurs évêques sont plutôt d'accord en général sur ce sujet-là. Pas tous, bon, mais enfin, comme ils dans. C'est pas ça qui modifie une opinion qui est essentiellement fabriquée par la télévision, par les réseaux sociaux, etc., qui leur répète à longueur d'année qu'il y a déjà trop d'églises en France, qu'on sait pas les évêques. Donc là, et ça contamine les esprits les plus évangéliques. Sans outil. Je ne sais pas, c'est mon analyse.
Puis d'une certaine manière, vous avez raison, retour d'un voyage à la Palestine, c'est les ordres, c'est-à-dire que c'est un ministère, puis il y a du monde là-dessus.
On a pris le café, on est resté une heure ensemble, et on lui a dit, mais ne pensez-vous pas qu'il serait possible, par exemple, lors des pèlerinages diocésains, d'aller au Grand Aïda, à Bethléem, ou alors d'aller voir la Tendance Nation, à Bethléem? On lui a dit, c'est impossible. C'est impossible, car aussitôt, j'aurai les réactions de toute la communauté juive. Et si vous voulez, dans la paroisse, quand on parlait d'aller avec EM, eh bien, pour les jeunes, il n'y avait pas de checkpoint entre Jérusalem et Bethléem. On passait facilement de Jérusalem à Bethléem.
Si quelqu'un veut encore prendre la parole, c'est pas ça, c'est pas ça.
Bonsoir, on va faire sans beaucoup Christian, ça va, on est un peu, ça turbine dans les cerveaux, là, ça... Bon. Merci beaucoup, on va continuer à réfléchir, à essayer de mûrir un peu tout ce qu'on a entendu, et toutes ces réflexions sur les distinctions à faire entre non-violence et pacifisme, enfin, à débattre, on continue à débattre, et puis... on se retrouvera chez les Mennonites. Je ne sais pas si tu veux faire le. Romain, si tu veux faire le pitch. Ouais. Enfin, c'est marqué dans le journal, et puis voilà. Bien vu, le 15 mars, c'est les Mennonites.